Une vie érotique ?
Ma vie érotique.
Bienvenue dans Une vie érotique, le podcast qui déshabille la vie sexuelle des gens. Salut Océane.
Salut. J'ai longtemps consommé du porno vraiment de trop mauvaise qualité, des trucs immondes sur les tubes et tout. Et puis un jour, je crois que j'ai entendu à la radio parler de... du fait que oui, bah de plus en plus, nanana, du porno à l'intention des femmes. Alors ça, je trouve ça trop con comme expression, mais bon, le fait est que voilà, à l'époque ça m'a touchée et je me suis dit, ah bah tiens, ok, cool, pourquoi pas. Et du coup, j'ai écrit genre sur Pornhub, genre for women, du coup je suis tombée sur des trucs bah, qui étaient un peu, enfin, c'était pas beaucoup mieux, mais du coup c'était un peu plus léché, peut-être un peu plus propre. C'est un peu bizarre de dire ça, mais ouais, c'était un peu moins dégueu, salivant et tout ça, ce qui à l'époque me rebutait vachement. Et du coup je me suis trouvée plus à l'aise, et du coup ma consommation de porno est devenue encore plus régulière, parce que je commençais à connaître mes goûts, à savoir ce qui m'excitait, à savoir ce que j'avais envie de voir, à savoir ce que je pouvais voir aussi, parce que de temps en temps tu tombes sur des vidéos d'une minute 37 et tu dis oui, d'accord, tranquille, puis après on te demande de payer et tu fais genre non. Mais oui, du coup, ça a vraiment été hyper progressif, un peu par étapes, comme ça, du bon, non. Alors, d'abord, les pénis, non, c'est pas possible. Après, bon, maintenant, on va trouver des catégories qui me plaisent maintenant, ça a été plutôt progressif, et ça s'est fait tout seul, en fait. Je me souviens pas vraiment de m'être dit, bon, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
Et en fait, t'as grandi avec Internet,
ouais.
T'as pas connu, toi, les cassettes vidéo, est-ce que tu crois que ça change quelque chose? Enfin, l'accès, du coup, est illimité,
ouais.
Qu'est-ce que ça change, tu penses, pour
bah,
des jeunes?
Déjà, par exemple, moi, je sais que j'avais un ordinateur dans ma chambre pour l'école, entre guillemets. C'est pas comme si je devais aller sur le PC familial, tu vois, genre pour dans le salon, tu sais, quand il y a personne, faire mes petites affaires et tout ça. C'était un peu ce truc de... Ouais, j'y avais accès vraiment hyper facilement. Et par exemple, contrairement à des histoires que j'ai entendues, soit de mes parents ou de mes frères et sœurs aînés, tu vois, où ils se procuraient des DVD ou des trucs comme ça. Mais moi, j'ai jamais galéré à accéder au porno. J'avais juste à taper porno sur Google, à ramer un peu dans la semoule, parce que genre, où est-ce que je clique? Mais c'est tout, en fait. J'ai eu tout de suite accès à plein de choses, à... une diversité totale, parce que j'imagine ma sœur qui a 35 ans, quelque chose comme ça, qui a dû trouver du porno, genre imagine, tu, enfin je l'imagine tout le temps, genre quand on en parle, genre aller dans un vieux sex shop, tu sais, un peu crappy, et demander genre est-ce que je pourrais avoir une vidéo de tel type s'il vous plaît, et t'imagines, c'est trop gênant. Autant maintenant, du coup, tu tapes genre, si ton trip, je sais pas, c'est les tentacules et le hentai, tu tapes tentacule hentai et t'es content, tu vois. Autant tu vas dans un sex shop ou dans un vidéo club, je sais pas comment appeler ça, tu vois, je suis tellement pas habituée à ça, et tu demandes, oui, je voudrais un truc, un hentai avec des tentacules, imagine le regard de la personne. Bon, ils en voient passer plein, mais du coup, moi, je m'imagine trop, genre, demander à genre, une tenancière dans sex shop un peu crappy, comme ça, oui, je voudrais ça, tu vois, genre, ça me fait rire, tu vois, je peux pas...
Oui, alors que les tubes, c'est l'accès aux tags.
Ouais, c'est ça, totalement.
À toutes les sortes de pratiques,
ah ouais.
Tous les âges, toutes les corpulences.
Ah, mais c'est ça, exactement. Et c'est assez hallucinant quand tu vois le nombre de catégories et de pratiques que tu peux trouver. Waouh.
Et toi, t'as joué avec les tags un moment? Enfin, quel a été ton tag parfait?
Assez vite, je me suis rendu compte que je voulais voir des meufs qui me ressemblaient. Grandes blondes à la poitrine refaite, très très mince, tout épilé, machin et tout. Du coup, je me suis vite orientée vers un tag, genre le hashtag natural, tu vois, et plutôt avec un tag avec Eri dedans pour des filles un peu plus poilues et tout ça. Et ça, ajouté au fait que je cherchais dans la catégorie des pornos lesbiens, bah, je me suis vite attirée vers une catégorie, et puis. Après, j'ai un petit peu plus tard, j'ai commencé à chercher du porno vraiment d'un autre genre. Genre, par exemple, où je cherchais du porno qui se déroulait genre dans une salle de bain, tu vois, ou des trucs comme ça. Mais en fait, j'ai vite... Enfin, ça va super vite, en fait, le mécanisme des tags, où tu te rends compte que tu peux aligner 4-5 tags et en fait, t'as toujours une vidéo qui correspondra, quoi. Et puis encore plus maintenant que je connais des pratiques plus... Enfin, plus extrême, enfin, moins commune, disons, je me dis tout le temps, ouais, bon, je vais ajouter mes tags et ça va me sortir aucun résultat trouvé. Bah, que nenni, il y en a toujours une ou deux, tu vois, qui sont pas forcément de super qualité.
Par exemple,
mais... bah, je sais pas, moi, enfin, je suis vachement axée BDSM et tout ça, et du coup, bah, moi, je veux une vidéo, du coup, de domination, d'humiliation qui se passe en public avec du shibari et du needle play, donc des jeux d'aiguilles. Et du coup, je me dis, ça fait peut-être beaucoup, non? Et en fait, non, il y a plein de vidéos qui sont sur, qui sont dans le même sens et tout. Ou alors, oui, je veux une vidéo d'un coït dans le bus avec une meuf rousse, un gars poilu et qui... un porno allemand, tu vois, et ça marche, c'est génial. Du coup, de temps en temps, j'en rigole toute seule, tu sais, devant mon PC, alors que je suis en train de chercher du porno, à me dire, oh là là, c'est vraiment pas possible, genre, il y a vraiment tout, quoi. Et tout ce que tu veux et tout ce que tu ne veux pas aussi. Et du coup, c'est vraiment très drôle, ouais, cette pratique d'ajouter des couches à chaque fois et puis de tomber sur la vidéo parfaite.
Et dans ton parcours, pour sortir justement de la sexualité dite normative, toi, à 18 ans, en fait, t'as passé une soirée avec deux amis et ça a fini en faire l'amour en plan A3. Et ça t'a un peu ouvert les yeux, je crois. Est-ce que tu peux nous raconter ?
Bah ouais, en fait, c'était mes meilleurs amis. On passait une soirée ensemble à regarder des films, manger des chips, enfin des trucs de gens de 18 ans, quoi. On rigolait, on fumait quelques bières et puis voilà. Et puis
tu fumais une bière ?
Ouais, bah tu vois, ça me perturbe grandement. On buvait quelques bières et tout ça. Et puis. Je sais pas trop comment c'est arrivé. Je pense que c'est on a dû se dire ouais nanana toute façon c'est pas comme si enfin Océane elle fait des bisous à tout le monde machin et tout puis du coup bon bah tu fais un bisou à une personne et l'autre dit ah bah moi je suis jaloux et puis tu sais pas pourquoi tout d'un coup tu te retrouves tout nu dans le même lit à trois tu vois et je me souviens pas enfin j'étais très consciente de ce qui se passait mais je vais t'avouer qu'en fait ça s'est fait tellement naturellement que je sais plus comment c'est vraiment arrivé Après, je me souviens un peu de la gêne de comment on est censé s'emboîter à trois comme ça, genre, du coup, c'était avec une fille et un garçon. Et du coup, c'était un peu comme, oui, mais du coup, s'il y en a une qui se fait pénétrer, genre, que fait l'autre à côté? Est-ce qu'elle s'allonge, elle regarde ou je sais pas? Du coup, ça a été un peu, tu sais, ces moments de tâtonnement et de latence où on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, machin et tout. Et en fait, ça s'est fait tout seul, on s'est super bien amusé. Et j'avais vraiment peur, en fait... que le lendemain, soit y en ait un de nous qui regrette, ou alors qu'on ait trop honte, ou qu'on se sente mal à ce propos. Et en fait, finalement, on s'est jamais senti mal à ce propos, on en plaisantait beaucoup en disant, ouais, nanana, plan A3, la prochaine fois, on se refait ça, ou des trucs comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah en fait, c'était une pratique que les gens trouvaient genre extraordinaire, genre, ouais, plan A3, en plus, c'est un fantasme super commun pour un mec, par exemple, d'avoir un plan A3 avec deux filles ou quoi. Et en fait, bah, c'était cool, quoi. Enfin, c'était juste normal, sympathique, un moment partagé comme ça qu'on a bien kiffé. Et je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que je suis censée avoir honte de ce que je pratique dans ma sexualité, du coup, au final, c'est... je me suis dit, bah, on se sent bien à propos de ça. Et en fait, si tout le monde est bien, si tout le monde s'est senti bien, bah... Ok, bah c'est cool. Du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah je vais plus me restreindre, tu vois, mais je vais arrêter de me dire, ah là là, il faut pas que je fasse ça parce que c'est pas bien, quoi.
Et tu m'as dit au téléphone que t'as des amis qui font des activités, par exemple, elles font du badminton.
Oui.
Et toi, tu dis, bah voilà, moi j'ai mes activités, dont voir des amants.
Ouais, c'est ça.
Tu considères la sexualité comme une activité humaine, récréative.
Ouais, c'est ça. Moi, enfin. Parce que moi, je dissocie vachement le sexe, l'amour et tout ça. Je peux faire du sexe sans amour, je peux avoir de l'amour sans sexe. Et bah ouais, c'est ce que je te disais, une fois ça m'est arrivé des amis qui allaient au badminton, tu vois, et genre au bad ou au volley, enfin bref, un sport comme ça, et qui me disaient bah toi tu fais quoi ce soir, et je leur ai répondu bah je vois machin, je baise. Elles m'ont fait des gros yeux, elles m'ont fait ah bon d'accord, et puis en fait c'est vrai, de temps en temps, tu sais, je me dis tiens, et si j'appelais machin et que je lui demandais si mardi soir il était disponible pour qu'on se fasse une petite partie de jambes en l'air, quoi, et ça se passe comme ça, et... Et oui, moi, le sexe, c'est vraiment un truc, genre, c'est une activité en soi, et puis c'est un amusement, quoi. Enfin, c'est genre, hey, t'es dispo pour faire une petite soirée bière, et puis si tu veux, après, bah, on fait l'amour et ce sera trop chouette.
Est-ce que dans cette découverte, t'as eu des déconvenues dans le sens où une femme qui assume ses désirs, enfin, on revient encore malheureusement ouais. à la question du genre, mais est-ce que, voilà, en étant jeune, en étant femme, en assumant ses désirs, en disant, voilà, ça te dit un petit 5 à 7 là, voilà, est-ce qu'il y a des mecs notamment, ou peut-être des femmes qui ont trouvé ça too much ou trop provoque, est-ce que tu t'es fait critiquer, est-ce que tu t'es fait slut-shamer?
Ouais, bah souvent, et en fait, ce qui est assez, enfin, c'est pas drôle, c'est étonnant, c'est que c'est plus les filles, en fait, qui me disaient, mais en fait, t'es une vraie salope, tu couches à droite, à gauche, machin et tout, et j'étais comme, bah non, en fait, tout est consenti dans tous les sens, je m'amuse bien, je fais attention à ma santé... Et c'est tout, quoi. Et les garçons avaient tendance à dire « Ah bah ok, bah c'est cool d'avoir des filles qui sont libérées comme toi. » Bon, je pense que, tu sais, c'est un peu aussi, ça alimente le fantasme, un certain fantasme, mais oui, c'est ce truc de souvent, j'ai eu des réflexions, surtout des filles qui me disaient « Ouais, bah, tu te respectes pas, machin et tout. » Et puis, j'ai vite commencé à parler de ma sexualité sur les réseaux sociaux, enfin notamment sur Twitter, où je connais pas, enfin, au début c'était pas des gens que je connaissais dans la vraie vie sur Twitter, donc je m'en foutais un petit peu. Où je parlais un petit peu bah, de mes expériences en disant bon bah voilà, la dernière fois ouais j'ai fait un plan à trois avec des potes, c'était rigolo, c'était bien et tout. Et le nombre de fois où j'ai su des trucs genre ouais t'as pas honte de t'exposer comme ça, de pas te respecter, on fait pas l'amour avec des gens qu'on aime pas, si on fait l'amour avec quelqu'un c'est avec la personne qu'on aime et tout. Mais calmez-vous, genre je fais ce que je veux, enfin vous faites ce que vous voulez, mais moi je fais ce que je veux aussi, quoi.
Et ça t'a conforté dans tes convictions ou ça t'a un peu ébranlé?
Bah ça m'a carrément conforté en fait, parce que je pense que j'en étais à un point des réflexions sur ma sexualité et ma vie qui était de eh non mais attends, ils vont pas me casser les ovaires là avec leurs injonctions et à me dire il faut faire ci, il faut faire ça, ou justement en fait j'en étais au moment où je découvrais plein de trucs, je me découvrais des passions sexuelles incroyables et où je m'amusais énormément, et en fait je me suis dit attends, je vais pas m'arrêter dans un si bon élan, si je m'amuse aussi bien c'est pas pour qu'il y ait des gens qui essaient de me ralentir, quoi. Et du coup je me suis dit bah non, justement en fait vous essayez de me faire chier, mais en fait il faudrait, enfin c'était un peu le truc de il faudrait plus de gens comme moi qui soient décomplexés et qui parlent un peu de leur sexualité assez librement machin et tout, pour que les gens ils se rendent compte que putain mais c'est pas grave de coucher avec ses potes déjà, parce que ça on me l'a beaucoup reproché, hein, tu couches avec tes amis, bah oui, et alors toi tu vas faire des cinémas avec tes amis, ça te pose un problème, bah non, bah voilà. Et ouais, c'est pas grave de coucher avec ses potes, c'est pas grave de faire des plans à trois, c'est pas grave d'avoir des plans un soir, des plans cul, c'est pas grave d'avoir des amants réguliers, c'est pas grave de coucher avec des gens plus vieux, c'est pas grave de coucher avec des gens plus jeunes, c'est pas grave de coucher avec des filles, c'est pas grave d'utiliser des sextoys dans sa sexualité, enfin ouais, c'est ça, ça m'a...
Rien n'est grave.
Rien n'est grave, quoi, tant que tu... C'est un peu ce truc de tant que c'est consensuel et consenti et que tout est sécurisant et que tu fais attention à ta santé, bah c'est cool, quoi.
Est-ce que dans cette aventure, tu as eu accès au plaisir rapidement? J'ai l'impression que oui, en t'entendant
ouais.
parler.
Ouais,
comment ça s'est passé?
Ça a été, enfin, très vite, après ma première fois et tout, je me suis dit, bon, trop déçue, genre, pas de plaisir et tout ça. Et très vite, en fait, bah, après ma première fois avec un garçon, j'ai tout de suite été avec une fille. Donc déjà, beaucoup plus de plaisir, parce que, bah, on s'écoutait, et puis, bah, elle connaissait le corps d'une fille, donc elle savait comment ça marchait. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, le sexe, c'est pour ça, en fait. Parce que, il y a aussi cette image qu'on disait, ouais, bah, le sexe, c'est pas forcément pour le plaisir, c'est pour faire des bébés, tu vois, c'est pour faire des enfants. Et bah oui, nanana, et tout. Parfois, t'entends parler les gens, t'as l'impression que le sexe, c'est, ouais, c'est juste, tu procrées et c'est tout. Et du coup, je me suis dit, hey, mais en fait, le sexe avec du plaisir, c'est super chouette. Et en fait, après, bah, quand je me suis séparée de cette fille-là et que du coup, bah, j'ai retrouvé des relations avec des garçons, en fait, je me suis dit, bah, tu sais, c'était un peu le truc de... Déjà, j'ai osé leur dire ce qui me plaisait et ce que je voulais, tu vois. Et quand, par exemple, bah, on était dans une position qui me plaisait pas trop, où j'étais pas bien, bah, tu vois, j'osais glisser ma main entre nos corps et puis me masturber un petit peu pour m'aider, me faire du bien, tout ça. Et j'étais pas complexée. En fait, j'ai découvert que les gens avec qui je couchais s'en fichaient un petit peu. Et ils me disaient, ah bah écoute, c'est cool, tu vois. J'ai même des garçons qui m'ont dit, bah attends, lève ta main, je vais mettre la mienne, tu vois. Parce qu'ils se rendaient compte que, bah ok, bah c'est cool. Enfin, ça suffit pas, il en faut plus ou des trucs comme ça.
Donc en fait, il y a juste la première fois où il y a eu le truc de je ne dis rien, ouais, mais en ça. Fait rapidement tu t'es sentie à l'aise pour t'exprimer.
Ouais, c'est ça. C'est je pense que la première fois ça a été vraiment une espèce d'unique fois où je me suis dit non mais c'est pas possible que ça se passe comme ça en fait. Je veux que parce que comme je me masturbais très souvent et que du coup bah je prenais vachement mon pied enfin et que j'étais très contente de ce que je faisais avec moi-même, je me suis dit bon enfin ça craint quand même que la sexualité à deux qui est quand même censée être une masturbation améliorée hein parce que bah partager des trucs c'est toujours mieux qu'être tout seul enfin ça se discute mais bon voilà. Je me suis dit non c'est pas possible, il faut pas que ce soit comme ça. Il faut pouvoir communiquer parce que la communication c'est quand même le mot-clé et tout et je me suis très très vite rendu compte sans forcément mettre les mots, tu sais mais que non, il faut en fait il faut que le plaisir il soit partagé, il faut que tout ça soit pas à sens unique en fait, et puis surtout ne s'il vous plaît ne vous taisez pas quand vous avez mal, enfin sauf si vous le demandez, mais ne vous taisez pas quand vous avez mal ou des trucs comme ça ou quand quelque chose vous plaît pas, faut le dire quoi, c'est pas grave, enfin il y a rien de mal ou quoi. Moi je sais que bah il y a plein de fois même encore aujourd'hui où bah je sais pas mon appareil génital est pas très content et genre bah certaines positions de pénétration ça me fait super mal et je dis à la personne genre stop, soit on ralentit soit on arrête soit on fait autre chose parce que là ça fait trop mal et je peux pas quoi. Et généralement la personne en fait c'est genre ok c'est cool et puis bah on fait autre chose et puis c'est tout quoi.
T'as aussi découvert assez rapidement, enfin je sais pas, vu qu'on parle dans un temps assez réduit, vu que t'as 21 ans, t'as multiplié les partenaires, mais pas seulement sexuellement, aussi émotionnellement, affectivement. Ouais. Donc tu te définis comme polyamoureuse.
Ouais.
Et du coup, t'entretiens des relations amoureuses avec potentiellement plusieurs personnes en même temps. Ça, comment ça se passe? Comment t'as découvert ça et pourquoi ça t'a attirée?
Bah, en fait, j'ai été dans une... Enfin, quand j'étais au lycée, j'étais avec un garçon. J'étais très, très amoureuse de lui. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que j'étais aussi amoureuse d'une de mes amies. Et je me suis dit, merde. Mais attends, mais c'est pas possible. Alors du coup, tu sais, c'est un peu genre la question de mon Dieu, mais du coup, lequel j'aime, est-ce que je préfère ma meilleure pote là ou est-ce que je préfère mon mec et tout et du coup, bon, réflexe tout de suite, genre Google, peut-on être amoureux de deux personnes en même temps, tu vois. Et du coup, bon, j'ai lu plein de trucs qui disaient que non, l'amour, c'est une fois, c'est unique, machin et tout. Et j'ai aussi lu plein de témoignages de gens qui étaient justement polyamoureux et j'ai découvert le terme à ce moment-là. Qui disaient que bah oui, eux, ils développaient des sentiments pour plusieurs personnes et qu'il n'y avait pas de souci avec ça, qu'il y avait même des gens qui avaient des relations amoureuses vraiment, genre qui étaient en couple avec plusieurs personnes et tout ça. Alors ça, c'était incroyable, je trouvais ça ouf. Et du coup, je me suis dit, bon, bah ok, cool. Après, c'est vrai que bon, par exemple, j'étais au lycée, j'allais pas... Enfin, c'était compliqué d'expliquer aux gens et tout ça. Mais après, plus tard, quand j'ai eu d'autres relations amoureuses et tout ça, bah je disais aux gens, bah écoute, enfin il y a une possibilité pour que même si là on est tous les deux très amoureux et tout, bah un jour je tombe amoureuse d'une autre personne et ça posera pas de problème. Ça veut pas dire que je suis plus amoureuse de toi, ça veut juste dire que bah j'ai de l'amour à donner à quelqu'un d'autre quoi.
Et comment c'est reçu ça?
Bah ça va, les gens l'acceptent, c'est pas pour ça qu'ils le supportent. En fait, là par exemple, j'ai été dans une relation avec un garçon pendant 3 ans quasiment, et du coup, enfin, ça, il a suivi beaucoup de mes découvertes et beaucoup de mes, de mes, enfin, de ce que j'ai fait. Et du coup, enfin, au début, je lui ai dit que bon, bah voilà, moi, j'étais parfois amoureuse de plusieurs personnes en même temps, et tout ça. Il m'a dit bon, bah ok, c'est cool, tant que ça reste platonique, y a pas de souci et tout ça. Mais après, c'est vrai que quand, par exemple, c'est une fois devenu très très matériel, où bah, j'avais beaucoup de rendez-vous avec un autre amoureux, où je le voyais régulièrement, sans aller plus loin ni rien, mais où du coup bah, je le voyais beaucoup parce que j'étais amoureuse, on était amoureux réciproquement et tout ça, bah du coup c'était pas de la jalousie, c'était plutôt de l'insécurité. Et souvent c'est un peu ce truc de ah mais qu'est-ce qu'il a de mieux que moi? Généralement, je rassure toujours mes partenaires là-dessus, de eh oh, enfin, il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est juste différent. Et oui, c'est ça, ça a créé souvent ouais, des petites insécurités comme ça. Mais bon, après, voilà, moi, je rassure mes partenaires et je leur dis que eh, c'est cool. Enfin, c'est pas, voilà, c'est ce truc de c'est pas parce que j'aime quelqu'un d'autre que je t'aime plus toi. Après, au fil du temps, j'ai appris aussi à différencier mes types d'amour, parce que bah, parfois, tu sais, tu développes des petits crushs sur des gens que tu rencontres comme ça, tu dis ouais, c'est une personne géniale, ça dure 3 semaines et après ça va mieux. Après, c'est, parfois, t'as des sentiments très très forts amoureux qui se développent et que tu peux pas t'en défaire, et c'est comme ça. Et du coup, bah, soit tu fais en sorte que les sentiments soient évoqués ou partagés ou des trucs comme ça, soit tu tais ton truc parce que tu sais que c'est pas possible ou que la personne en face est pas ouverte à ce genre de choses. Et puis voilà. Après, c'est vraiment au cas par cas, tu vois. C'est assez unique en fait à chaque fois. Donc il n'y a pas de généralité à faire pour le coup.
Oui, j'ai consacré un autre podcast beaucoup, enfin qui tourne beaucoup autour du polyamour. Du coup, je passe un peu rapidement sur le sujet, mais j'avais envie de te poser la question de l'âge, même si je sais que c'est cliché en fait, mais c'est vrai que à 21 ans, t'as vécu beaucoup de trucs, t'as découvert pas mal de choses. Comment tu le vis? Est-ce que tu te dis voilà que c'est une chance que t'avais l'indépendance d'esprit, les ressources. Est-ce que tu penses que c'est rare ou est-ce que c'est un truc nouveau qui est lié à l'accès Internet, à Twitter, à des sources beaucoup plus denses sur Internet notamment? Voilà, comment tu l'interprètes?
Bah alors déjà dans un premier dans un, je pense que ouais, c'est une chance que j'ai de m'être autorisé, parce que je pense que c'est un truc qu'on s'autorise pas forcément à vivre ce qu'on veut vivre, de m'être autorisé de suivre mes envies en fait et de faire ce que je voulais un petit peu et de m'épanouir dans mes relations avec des partenaires et tout ça. Effectivement, j'ai souvent eu la réflexion de m'être trop jeune pour avoir vécu tout ça. Je pense que il y a toute une génération là qui arrive qui, grâce aux réseaux sociaux, moi je suis très Twitter, et du coup il y a des communautés dessus. Alors t'as les communautés queer, t'as les communautés polyamoureuses, les libertins, tout ça. Du coup, tout le monde est très. Enfin, tout le monde. Les gens qui s'y intéressent sont très au fait des choses et du coup, il y a plus de. Sont moins complexés par la chose et se disent, bon, bah, en fait, il y a plein d'autres gens qui le font, alors pourquoi pas moi? Il y a plein d'autres gens qui le font publiquement, alors pourquoi pas moi? Parce qu'il y a aussi ce truc de. C'est moins confidentiel maintenant. Effectivement, je pense que, encore aujourd'hui, autour de moi, il y a très très peu de gens de mon âge qui ont eu une sexualité et des relations aussi décomplexées que les miennes et aussi variées, je dirais. Mais de plus en plus, je vois des jeunes qui ont, enfin des jeunes, je dis des jeunes alors que j'ai 21 ans, mais je vais parler de gens qui ont 18 ans, des personnes qui ont 18 ans et qui se disent polyamoureux ou polyamoureuses et genre bah ils sont OK avec ça, c'est cool, machin, et ils disent bon bah voilà, moi j'ai plusieurs amoureux et ça me pose pas de soucis. Et du coup, je trouve ça chouette. Je trouve ça vraiment très très chouette que les gens puissent vraiment s'assumer et se permettre de vivre comme ils l'entendent, tu vois, dans, bon, dans la limite du respect des autres. Et c'est assez chouette. Enfin, moi, ça me fait trop plaisir tout le temps quand je vois des gens qui sont contents et qui partagent leur expérience et qui sont épanouis. Voilà, bon, je suis un peu un bisounours, hein, mais ouais, ça me fait toujours plaisir de voir ça. Alors que moi, parfois, je vais t'avouer que j'ai galéré. Même je, parfois, j'ai été confrontée à des milieux qui, dans lesquels mon âge a été un problème. Je pense au milieu libertin et BDSM, enfin surtout BDSM du coup, où on me disait mais si à ton âge t'es comme ça, qu'est-ce que ce sera au nôtre? Parce que c'est des milieux où en fait la plupart des gens ont le double de mon âge, donc une quarantaine d'années minimum. Il y a des soixantenaires qui sont là-bas ouais, toujours ces regards. Mais si t'en es là maintenant, qu'est-ce que tu vas faire après, quoi?
Mais comment tu es entrée dedans, justement? Je voulais en parler, ça tombe bien.
Au début, je me suis renseignée sur Internet, machin, et tout. Du coup, j'ai rencontré des gens via Twitter, notamment. Bah, quasiment que Twitter, en fait. Twitter et FetLife, qui est un site, un réseau social orienté vers le fétichisme et le BDSM. Et oui, du coup, je rencontre des gens comme ça. Alors au début, juste, ça devient des connaissances d'Internet. Et puis de temps en temps, on se rencontre. Et du coup, ils disent, bon, bah voilà, il y a telle soirée qui se passe. Il y a un munch dimanche prochain. Viens, bah du coup, un munch, c'est un moment, en fait, où des gens du BDSM viennent et parlent entre eux de leur expérience et partagent des trucs, etc. C'est assez chouette, en fait. C'est comme un café, mais avec des gens qui portent du cuir. Et du coup, ouais, bah viens, écoute, viens voir ce que ça donne pour te faire une idée et tout. Parce qu'au début, bah, c'était un peu dur de fréquenter vraiment le milieu. Je pratiquais moi-même dans ma sexualité ou avec quelques partenaires, mais fréquenter les milieux, c'est quand même un peu compliqué. C'est impressionnant aussi, parce que c'est très codifié. Et du coup, j'arrive là-bas et... Alors, tu sais, je suis... À l'époque, en plus, j'avais les cheveux longs et blonds, j'ai les yeux bleus, des lunettes, et puis je suis toute petite minette et tout. Et du coup, on me regardait, genre, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, tu vois? Et puis j'arrive avec mes chemises à fleurs et tout ça, parce que bon, enfin, moi, j'ai pas le dress code BDSM, et voilà. Et on me regardait tout le temps, genre, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdue, ma petite? Et j'étais comme, bah non, je viens pour le munch. Et on me regarde, genre, mais qu'est-ce que t'as à raconter? Et du coup, bah, quand j'ai parfois pris la parole, j'étais comme, enfin, les gens me regardaient avec des grands yeux, genre, oh, c'est pas possible et tout, machin. J'étais comme, enfin, attendez, vous êtes, enfin, tu sais, à s'en demander s'ils sont pas jaloux ou je sais pas, enfin, ça m'a vraiment procuré des sentiments et des sensations étranges de malaise, tu vois, de putain, mais pourquoi on me juge alors que c'est des gens qui font exactement la même chose que moi, ils ont juste 20 ans de plus que moi et parfois en plus, c'est des milieux qui sont plutôt safe, mais ça arrive que ça ne le soit pas. Et il y a aussi ce regard, parfois je me sentais comme une proie, tu sais, la petite vingtenaire qu'il faut attraper, tu vois, et ça c'est horrible. Mais vraiment là, je crois que c'est ma plus grosse barrière actuellement. C'est vraiment que ouais, j'ai 21 ans et je suis jamais prise au sérieux, quoi. Quand je parle de sexualité et tout, même de un peu de militantisme parfois en disant voilà, parce que moi je suis plutôt féministe et je suis plutôt pro sexe, pro porno, pro travailleurs du sexe et tout ça, et quand je parle de ça, tout le monde me dit t'as pas la voix au chapitre, t'es trop jeune, tu sais pas de quoi tu parles. Bah si, en fait, je sais carrément de quoi je parle, et justement j'ai plein de choses à vous apprendre, parce que t'as plein de gens qui ont des comportements et des discours qui sont assez... Je dirais pas toxique, c'est un grand mot, tu vois, mais qui sont franchement pas bienveillants du tout. Et alors que, bordel, c'est des milieux où on a besoin de bienveillance, surtout dans le BDSM, parce qu'on joue avec la douleur, le oui, le non, et des trucs comme ça qui sont quand même hyper dangereux. Il y a besoin d'une bienveillance, et on m'a tellement manqué de bienveillance la plupart du temps que ça en était chiant, quoi.
Mais tu y es toujours, enfin, je veux dire, tu fréquentes toujours.
Ouais.
Et du coup, qu'est-ce que tu disais dans ces prises de parole qui choquaient tellement ?
Bah, je disais que, par exemple, pour moi, le BDSM, c'était pas un style de vie. Alors ça, ça choque beaucoup, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui vivent BDSM, tu vois, qui... leur sexualité est uniquement comme ça. Bah, je leur disais, moi, en fait, comme j'ai une multitude de partenaires, je peux pas me trouver, genre, que des partenaires qui sont orientés BDSM. Surtout que, bah, moi, dans le BDSM, en plus, j'ai des pratiques en particulier, par exemple, le shibari, les jeux d'aiguilles. Et puis, en plus, bah, je suis soumise... Et du coup, bah, il faut trouver quelqu'un de dominant qui maîtrise le BDSM, enfin, qui maîtrise le shibari et les aiguilles. Non, ça, enfin, c'est pas possible. Je peux pas faire passer un casting, tu vois. Du coup, moi, j'ai une sexualité qui est mi-vanille, mi-BDSM. Du coup, enfin, c'est...
Donc, vanille, pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire... Enfin, ça veut dire quoi, en fait?
Bah, ça veut dire qu'il n'est pas BDSM, en fait. Qui est pas... t'as une sexualité vanille si tu pratiques pas du BDSM, si t'as pas des fétichismes, voilà. Ou des trucs comme ça. Enfin, c'est... Ouais, c'est une sexualité plutôt normée.
On a déjà parlé dans ce podcast du bondage et du shibari, mais je voulais revenir sur la question des aiguilles, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant de ce que c'est. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est les jeux d'aiguilles ?
Ouais. Alors en fait, les jeux d'aiguilles, bah du coup, c'est une pratique BDSM qui est pas si courante que ça, mais qui se pratique assez souvent quand même. En fait, c'est avec des aiguilles hypodermiques qui servent normalement bah, pour t'injecter des trucs dans la peau. T'achètes en fait un lot d'aiguilles à la pharmacie. Ça coûte vraiment une misère. En plus, c'est très bien quand tu pratiques le BDSM et que t'es un peu pauvre, comme moi, comme étudiante. Ça coûte vraiment une misère. T'as plusieurs diamètres. T'as des aiguilles qui sont très très fines, des aiguilles qui sont beaucoup plus épaisses. Enfin, attention, c'est pas, on parle pas de 3 mm d'épaisseur. On parle de 1,8. Allez. Le grand maximum, ça va être 2000, non, même pas 2000, ça existe pas, je crois. Et oui, du coup, en fait, c'est un jeu où tu vas pincer la peau un petit peu. Du coup, tu vas passer une aiguille. Il faut faire très attention parce qu'il faut pas que ça rentre trop dans les chairs. C'est une pratique qui demande vraiment beaucoup d'attention et de sécurité, aussi d'hygiène, parce que du coup, ça pénètre dans la peau, donc il faut être hyper clean. Déjà, faut être douché avant, faut avoir mis des gants, désinfecter le matériel, désinfecter les supports, et tout ça. Faut faire ça dans des endroits, tant qu'à faire, où tu risques pas d'être bousculé. Par exemple, si tu fais ça dans un endroit plutôt public, dans une sex party ou un truc comme ça, faut faire attention d'être dans un coin calme. Et en fait, tu prends l'aiguille, tu pinces la peau et tu la passes sous l'épiderme. Et en fait, c'est une pratique qui, comme ça, peut paraître très extrême aussi parce que il y a la peur de la médecine qui est très présente dans beaucoup d'esprits. Il y a plein de gens qui ont très peur des aiguilles à cause des prises de sang, des trucs comme ça et tout. Moi, je sais que j'ai commencé à me détacher de cette peur des aiguilles, en fait, que j'ai eu une mauvaise expérience avec des vaccins, genre le vaccin pour le col de l'utérus là qui est en 3 injections, qui est hyper douloureux, horrible. Et en fait, la dernière injection, j'étais tellement tendue que le gars, il a cassé l'aiguille en faisant mon vaccin et du coup, ça m'a trauma de ouf. Et en fait, j'ai commencé à me détendre à propos de ça, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a un an et demi quand je me suis fait tatouer pour la première fois. Où en fait, je me suis rendu compte que oh merde, c'est une aiguille en fait le tatouage. Et du coup, je me suis dit non, au secours. Et en fait, ça s'est super bien passé, je me suis endormie pendant mon tatouage. Enfin bref, c'était hyper agréable, j'étais trop contente. Du coup, je me suis dit, bon, les aiguilles, c'est pas grave. Et en fait, j'ai découvert le needle play. Enfin, ça faisait un bout de temps que j'en avais déjà vu, quoi. Mais du coup, je me suis dit, mais comme j'avançais dans mes pratiques BDSM, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas, ce serait intéressant et tout. Et du coup, en fait, j'ai commencé à le faire toute seule. Parce que c'est un truc quand même un peu extrême et qui demande de la patience et tout ça, et du coup j'avais pas envie d'imposer ça à un de mes partenaires, j'avais peur de lui faire peur aussi, parce que bon, faut avouer que c'est un peu effrayant. Et du coup j'ai commencé toute seule à me pincer des petits bouts de peau sur la cuisse, à passer mon aiguille, à me rendre compte que ah non là c'est trop profond, et ah là c'est bien, c'est agréable et tout. Et du coup, bon, bah, en parler à des partenaires qui ont bien voulu pratiquer avec moi. Bon, il n'y en a pas beaucoup hein, qui pratiquent ça vraiment, c'est un peu compliqué. Et en fait, c'est assez doux comme pratique au final. C'est vachement moins violent que, comme je te disais au téléphone hier, que de se faire matraquer les fesses avec un paddle, quoi.
Et qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? C'est un peu méditatif ou enfin, qu'est-ce que ça apporte ?
Ça apporte beaucoup de... Je me recentre beaucoup sur moi-même et sur les sensations. C'est un concentré de sensations parce qu'en fait, c'est à la fois très doux et à la fois un peu douloureux. Et en même temps, bah, une fois que l'aiguille est placée, tu la sens presque plus. Mais t'as juste, en fait, à l'idée la présence de l'aiguille. Après, la personne qui joue avec toi peut un peu tapoter sur la peau pour te faire sentir la présence de l'aiguille, tout ça. Tu peux t'amuser à faire des trucs super jolis, enfin super jolis, en passant par exemple un ruban autour des aiguilles.
Mais il y a un plaisir érotique là-dedans.
Ouais, complètement, ouais. Complètement. Autant parfois je pratique le... par exemple, je pratique le shibari souvent à la maison, mais juste pour relâcher des trucs parce que ça me fait du bien d'être contrainte et attachée.
Oui, ça ramène au corps en
fait.
Enfin,
ça,
moi, j'ai
exactement.
Un peu essayé aussi, même si tu t'en sers les jambes toi-même.
C'est ça.
Et en fait, tu reviens dans le moment présent.
Exactement.
Donc, il y a même des gens qui l'utilisent hors de la sexualité.
Ouais, c'est ça. J'ai vu.
Pour
ouais,
des buts méditatifs même esthétiques parce que c'est super beau.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, je pratique souvent ça toute seule à la maison et il m'est arrivé de faire des aiguilles toute seule à la maison pour ouais, ce truc de tu souffles, quoi, tu reviens à toi, c'est tes sensations, ton corps, tu te réappropries en fait tout ce truc. Et moi, ce que j'aime bien dans les aiguilles, c'est que tu te réappropries un peu tous ces toute cette peur du médical. Moi, je sais que j'ai un problème avec les médecins, ça me terrifie beaucoup parce que j'ai eu plein de mauvaises expériences dans le courant de ma vie. Et en fait, les aiguilles, ça m'a déjà... ouais, tu te réappropries ce matériel médical qui est censé te soigner et en fait t'en fais un objet de plaisir et ça c'est vraiment hyper satisfaisant et, mais c'est hyper érotique aussi, c'est-à-dire que quand je fais ces petites séances toute seule à la maison d'aiguilles bah généralement ça va pas, enfin ça va te perdre avec une séance de masturbation après pour finir de vider un peu le sac et la tension sexuelle que j'ai accumulée quoi.
Ok. Et c'est le même lâcher prise que tu cherches aussi dans le shibari, par exemple ?
Ouais, plutôt. Après, le shibari, c'est plus global. C'est-à-dire que ça va être sur tout le corps ou sur une grande partie de ton corps. Par exemple, je pense aussi à la suspension. Dans le shibari, tu peux faire du shibari tranquille dans ton canapé, mais tu peux faire du shibari accroché à une poutre aussi. Et là, c'est vraiment total. T'as tout le corps, t'es emmené et tout. C'est assez intense. Alors que les aiguilles, c'est très local. C'est-à-dire qu'en plus, bon, si je le pratique toute seule, le problème, c'est que par exemple, je peux pas le faire sur mes bras parce qu'il faut deux mains pour planter des aiguilles. Du coup, bah, je le fais un peu sur mes jambes, peut-être un peu sur ma poitrine ou des trucs comme ça. Et du coup, c'est très, très ciblé. Et en fait, c'est une douleur qui est totalement différente. C'est au contraire du shibari qui est... ça provoque une douleur parce que t'en serres quand même les membres quand t'es suspendu, t'es appuyé sur certains points et tout ça. Les aiguilles, c'est une douleur un peu aiguë par rapport à d'autres pratiques qui sont des douleurs assez sourdes, tu sais. Vraiment, c'est le pic et hop, t'as plus rien. Tu sens plus. Après, t'as plus mal. T'as la sensation de l'aiguille, mais t'as plus mal, quoi. Après, quand tu la retires, hop, pic, ça repique une nouvelle fois et c'est tout. Et même si c'est la même satisfaction que je recherche, c'est des sensations différentes. C'est pour ça d'ailleurs que je pratique les deux trucs en caracons. Ça m'apporte des trucs vraiment différents. Et en plus, moi je recherche aussi un côté très esthétique. Je fais un petit peu de photos nues et je recherche un peu ce côté esthétique des choses et les aiguilles. Je comprends que pour les gens que ça effraie, c'est pas joli, mais ça peut donner des choses très très esthétiques. Tu peux créer des lignes sur tes bras avec les aiguilles. Après, t'as l'esthétique du sang aussi, parce qu'il y a certains endroits, quand t'enlèves les aiguilles, ça saigne, d'autres non, et puis ça dépend des personnes, donc voilà quoi.
Et au-delà des réflexions que t'as eues dans la communauté, du coup, est-ce que quand même tu trouves qu'il y a de la bienveillance autour de toi, de ce que tu racontes, de tes pratiques, ou est-ce que c'est encore compliqué? Tu dis que t'as l'impression qu'il y a une génération qui vient, qui se revendique plus. Peut-être que c'est lié aussi à la visibilisation de toutes ces pratiques-là, notamment sur les réseaux sociaux. Le côté communautaire, justement, on se retrouve beaucoup plus par capillarité, par centre d'intérêt. Est-ce que là, toi, tu te sens mieux? Est-ce que tu te sens quand même accepté? Ou est-ce que tu sens quand même qu'il y a un côté paria dans ce que tu fais qui t'est reproché?
Non, je me sens vraiment acceptée.
Okay.
Même si j'ai été parfois, comme je disais, confrontée à des jugements, des paroles pas très sympas, pas très bienveillantes, pas très chouettes, quoi. je me sens très acceptée, même par des gens qui pratiquent pas du tout. Je sais que la plupart de mes amis, pour eux, le BDSM, bon, peut-être une fois au chalet, mais c'est tout, quoi. La plupart des temps, les gens sont juste curieux, en fait. Ils me disent, mais ça fait pas mal. Alors là, je leur réponds, c'est le but. Juste, ils sont plutôt curieux et pas informés, en fait. Du coup, bah, je fais beaucoup de pédagogie. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans des milieux particuliers, que ça saoule de faire de la pédagogie. Moi, j'adore ça parce que, bah, je parle de trucs que j'aime à des gens qui connaissent pas, donc je leur apprends des trucs, ça me semble fabuleux. Et ce truc de, bah, la plupart des gens sont juste, ils connaissent pas. Enfin, il faut leur expliquer que, t'as un jeu de domination avec ta soumise, avec ton maître ou un truc comme ça, c'est pas... il te fait pas vraiment du mal. Enfin, c'est consenti, tu lui as demandé, enfin, vous êtes d'accord là-dessus, et bah oui, il te met des claques et des gifles, et il te fait mal, et il t'insulte, mais ok, moi je suis ok avec ça, et c'est cool, et après ça nous empêche pas d'aller prendre une glace ensemble et de rigoler en parlant des programmes télé, tu vois. Et oui, c'est plutôt accepté. Moi, je sais que bon, après, maintenant, au fur et à mesure de mes rencontres, c'est vrai que j'ai un cercle amical qui est quand même assez orienté queer, pro-sexe, un peu dans le BDSM et dans le milieu artistique aussi, de l'érotisme et tout ça. Donc, forcément, comme je suis entourée de gens qui connaissent, qui pratiquent, qui ont au moins vu ça passer un jour, ça va mieux. Mais même mes amis qui sont pas du tout dans ces délires-là, ils sont plutôt cool avec ça, ils sont ok, et du coup c'est assez chouette parce que je peux parler de mes expériences, parce que au début où j'ai pratiqué, je n'osais pas parler de ces expériences-là à mes potes quand on parlait de cul ensemble et qu'on se racontait nos petites anecdotes sexuelles, tu sais, genre je me disais non, je vais pas leur raconter cette fois-là et tout, c'est trop violent pour eux et tout. Puis bon, un jour j'ai dû être un peu trop ivre en soirée et leur raconter un truc, et puis du coup ils étaient tous genre waouh, incroyable et tout, et du coup je me suis dit en fait bah, c'est bon, je peux y aller, je peux en parler, ça choque personne, quoi.
Ok, ben pour conclure, je voulais te poser 2-3 questions où tu peux répondre très rapidement. Alors, un fantasme que tu aurais envie de partager à ce micro ?
Ah, c'est compliqué parce que dernièrement, j'ai accompli beaucoup de fantasmes. Mais...
Ou un que tu viens d'accomplir ?
Un que je viens d'accomplir, alors. j'avais toujours rêvé de... Enfin, rêvé, du coup, fantasmé, de... d'être très soumise et dans un endroit, dans un lieu de travail, en fait. Et là, j'ai un de mes amants qui travaille... dans des bureaux, en fait, qui la dernière fois m'a appelé en me disant « Bon, bah, dans 30 minutes, tout pile, t'es à mon bureau, sous ta robe, t'as pas de sous-vêtements, et tu te mets à genoux en arrivant, et j'arriverai. » Et du coup, bon, bah, voilà, ça s'est passé comme ça.
Il y avait personne,
mais c'était un peu la peur, quand même, que... On sait jamais, le patron qui a dit qu'il était en rendez-vous, si ça se trouve, il rentre en avance et tout, c'était un peu fou. C'est pas un fantasme de ouf, tu vois, je pense que c'est assez commun, ce truc du bureau et tout ça, mais du coup je l'ai accompli et je suis quand même très 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 contente, et du coup là je me cherche des nouveaux fantasmes parce qu'effectivement j'ai plus grand chose à...
Mais pourtant il te reste longtemps à vivre.
Oui, c'est ça.
Ok, ta tenue préférée pour faire l'amour?
Je dirais aux trois quarts habillé. J'adore faire l'amour habillé. Je porte une robe et que la personne a juste à soulever la robe, pousser la culotte et puis c'est tout. Voilà, habillé, c'est bien, j'adore.
Et un mot ou une phrase qui t'excite?
Je dirais assez basiquement à genoux.
Et enfin, une œuvre érotique que tu voudrais conseiller?
Ah alors si je peux conseiller un bouquin, du coup, un énorme pavé de 700 pages qui est hyper intéressant, c'est un livre qui a été publié là cette année à la Musardine il y a pas longtemps, qui s'appelle L'amour, la schlag, etc. C'est un livre de Julius en fait qui parle d'un couple de sexagénaires qui ont produit du porno dans leur vie, qui ont toujours été très libertins et tout ça, donc c'est D'un côté, c'est un peu perturbant parce que c'est la sexualité de gens de 60 ans, et du coup, là, c'est un peu gênant. Mais en même temps, il y a plein de flashbacks, retours en arrière, de comment aussi la femme de cet homme-là a subi les désirs de son mari, mais en fait, tu te rends compte que bah, c'était son désir à elle de subir son désir à lui, de toutes ses envies cachées et tout ça. Il y a quelques intrigues autour d'un film porno qui a été tourné... et tout ça, et c'est très chouette, c'est plein de références aussi, parce que ça te parle du porno des années 70-80, et c'est hyper intéressant. C'est parfois une lecture à une main, parce qu'il y a des passages qui sont vraiment très 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 excitants, et j'ai beaucoup apprécié ma lecture, et franchement, ouais, si je pouvais conseiller, c'était ça.
Redis le titre, L'amour, la schlag, c'est ça?
Ouais, L'amour, la schlag, etc. C'est Julius aux éditions La Musardine.
Ok, c'est noté. Merci beaucoup à Océane de m'avoir laissé voyager dans ta vie érotique.
Bah, merci à toi.
J'espère que ça t'a plu.
Oui, beaucoup.
Et à une prochaine peut-être.
Oui.